Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone avant-dernière de la saison avec à nouveau un grand voyage. Nous irons à Tahiti, dans un club de jazz de Montréal et dans les zones infestées par les moustiques. C'est notre révélation littéraire du printemps 2017. L'auteure française d'origine polynésienne et tunisienne, Anna Krish, publie un roman étonnant sur la vie de Marlon Brando à Tahiti et sur la société tahitienne, très loin de l'image touristique. Nous vous emmènerons à Montréal avec un excellent roman graphique sur l'histoire des clubs de jazz et l'histoire aussi de la prohibition. Entretien-reportage exceptionnel sur place dans le cadre des 150 ans du Canada. Et puis nous serons avec l'académicien Eric Orsena pour un traité géopolitique sur les moustiques. Vous allez découvrir des choses étonnantes sur cette bestiole qui tue quand même 750 000 personnes par an.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme d'habitude, quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie. On retrouve tout de suite Claire Renaud, notre nouvelle libraire suisse, libraire à Genève dans la librairie Atmosphère. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Atmosphère, hein, c'est ça. C'est en ça. Référence, vraiment, hein, en plus.
Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
C'est ça. Vous vous êtes remise de votre première il y a deux semaines, tout va bien?
Oui, je me suis remise,
bon,
tout va bien.
Nickel, vous restez avec nous, bien évidemment. Bonjour Jérémy Laniel.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou. Tout va bien en pleine francopholie de Montréal, hein. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs, les francos.
Exactement, Montréal revêt ses habits festivalières pour le restant d'été à peu près. Là.
Et nous partons juste après l'émission pour célébrer les 375 ans de Montréal avec un plateau inédit et exclusif autour de deux artistes phares de la scène musicale francophone. Tikenja Fakoly et les Cowboys Fringants seront avec nous sur la Place des Arts. Diffusion cet été, ça me permet de vous informer justement dans une nouvelle émission que nous vous préparons. Une déclinaison de la librairie francophone ouverte à toutes les cultures et diffusée sur la RTS, la RTBF, Radio-Canada, France Inter et RFI, Radio France Internationale qui nous rejoint. Nous allons tous produire ainsi l'émission de radio francophone la plus diffusée dans le monde. La librairie francophone estivale, c'est le titre de ce nouveau programme à écouter à partir du 1er juillet. Bonjour Annick Dor.
Bonjour Emmanuel.
Vous serez auditrice, j'espère.
Mais oui, bien sûr.
Vous êtes libraire à la Hulpe en Belgique, dans la librairie de la Mazarine. En France, c'est à nouveau Grégoire Courtois, méchant libraire défendu par les auditeurs. Je vais encore me faire taper dessus. Bonjour Grégoire.
Bonjour. Vous êtes... vous me rappelez, je reviens.
Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on vous aime, vous savez quand même. Bah oui, malgré ce qu'on dit. Vous êtes libraire à Auxerre, dans la librairie Oblique. Tout va bien pour vous?
Ça va, parfait.
Très bien. Bonjour Eric Orsena.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez ce livre passionnant, géopolitique du moustique, qui nous emmène sur les traces de l'effroyable bestiole à travers le monde entier. Avant d'en parler tout à l'heure, et d'apprendre beaucoup de choses d'ailleurs, on commence toujours cette émission par une histoire, racontée par l'un de nos invités, histoire que je découvre en même temps que les auditeurs. Vous avez carte blanche. Que voulez-vous transmettre, Eric?
Eh bien, c'est l'histoire de la guerre du Vietnam à la fin des années 1960. Les Américains déferlent des bombes sur ce pays et les armées vietnamiennes décident de creuser des galeries un peu partout sous la terre pour se protéger des bombes. Sauf que dans ces galeries, il y a évidemment énormément d'humidité, et qui dit humidité dit moustiques, donc ils meurent beaucoup plus du paludisme causé par ces moustiques que des bombes américaines. C'est ainsi que Ho Chi Minh, donc le chef d'État du Vietnam du Nord, demande l'appui de son allié Mao, qui va lancer une immense enquête sur les pharmacopées traditionnelles en Chine. À cette occasion, on trouve une plante qui s'appelle l'artémisia, qui soigne le paludisme depuis les temps les plus immémoriaux. Et c'est 30 ans après, le docteur Yu Yutu qui trouvera le principe actif de cette artémisia, qui est au cœur de tous les soins contre le paludisme aujourd'hui.
Voilà, l'histoire passionnante et terrifiante aussi, hein, des moustiques, on en parle tout à l'heure. Eric Orsena est dans la librairie francophone aujourd'hui. Et bonjour Anna Krisch.
Bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue, vous publiez votre deuxième roman aux éditions Julliard et c'est notre révélation printemps-été 2017. Un peu comme dans la mode, il y a la saison printemps-été. Vous êtes d'origine polynésienne et tunisienne. Votre roman Il faut se méfier des hommes nus raconte le lien de Marlon Brando à Tahiti. Entre la biographie et l'analyse sociologique de la société tahitienne, on est vraiment captivé par ce livre. C'est un roman plein de surprises. Nous verrons si les libraires sont d'accord avec moi tout à l'heure. En tout cas, Brando ne découvre pas seulement Tahiti lors du tournage des Révoltés du Bounty. Il en a une passion depuis l'enfance. Qu'est-ce qui l'attire autant ?
Il raconte dans son autobiographie qu'il a découvert Tahiti à 5 ans et qu'il en est tombé amoureux instantanément. Et donc, c'est vrai qu'il va la découvrir réellement dans les années 60 quand il tourne les Révoltés du Bounty. Et il va tomber amoureux de l'île et d'une femme, mais surtout de l'île, à vrai dire.
Et qu'est-ce qui l'attire alors ?
C'est un refuge. C'est le, c'est le dernier refuge du paradis. Et pour lui, Hollywood est un enfer. Et donc, il a trouvé son paradis en cette île.
Il y a votre narratrice qui s'appelle Cheyenne et qui porte le même prénom que la fille de Brando. Elle est chargée d'écrire le scénario du biopic de l'acteur. On lui dit que c'est une grosse production américaine, qu'il faut édulcorer un peu. Elle nettoie un peu la vie de Brando parce que sa vie est terrifiante. C'est un personnage instable, violent, qui détruit même, vous le dites, les personnes avec qui il a des aventures. Hommes et femmes confondus.
C'est vrai qu'il n'y a que des drames qui jalonnent son existence. Et donc on connaît le drame de sa fille Cheyenne qui s'est suicidée, qui s'est pendue, dont le mari a été assassiné par son propre frère. Donc il n'y a que des histoires de meurtre, de sang et de larmes.
Mais même avec sa compagne, avec qui il aura Cheyenne, c'est terrifiant.
Toutes ses compagnes, qui ont toutes écrit des autobiographies.
Oui. Et
qui
ça les a traumatisées au point de faire des psychanalyses et d'écrire des livres.
Oui, non, je crois que c'était un personnage très fascinant, mais en même temps terrifiant.
Et son enfance est un désastre, vous le racontez, avec une mère alcoolique qu'il ramasse, alcoolisée.
C'est lui qui raconte ses épisodes dans son autobiographie, donc je le rappelle. Ouais. Donc oui, il avait une mère probablement alcoolique et un père violent qui la fuit pour rejoindre ses sœurs à New York et commencer le théâtre et le cinéma.
Ça explique, vous pensez ?
Oh, je sais pas, c'est très difficile de faire de la psychologie de personnage. J'ai pas essayé de faire ça dans ce livre, mais c'est vrai que certainement l'histoire personnelle... peut expliquer certaines choses.
Alors Cheyenne en tout cas part à Tahiti et vous décrivez la société tahitienne. Vous êtes très lucide, Anna Krisch, intransigeante même. Tahiti est loin de la carte postale, on va y revenir tout à l'heure, et les Tahitiens sont libres. Ça c'est très important parce que Marlon Brando va apprécier de ne pas être traité comme une star là-bas.
Oui, c'est ce qu'il aime. Il dit qu'il s'en fiche royalement de qui il est, de ce qu'est une star hollywoodienne. Et donc, c'est ça qu'il aime. C'est cet anonymat-là qu'il aime en Polynésie. Est-ce que les Polynésiens sont libres ? Je ne sais pas. C'est en tout cas l'idée qu'on s'en fait depuis qu'on a découvert cette île.
Ils s'affranchissent des classes sociales ?
Je crois que c'est vrai qu'il y a certaines choses qui existent pour nous dans certains territoires et qui là-bas passent un peu au travers de l'existence.
Oui, on est un peu en marge, forcément.
Un petit peu. C'est-à-dire que c'est un isolement géographique qui fait qu'on est aussi isolé dans d'autres secteurs de l'existence.
On salue les Tahitiens, ils sont très nombreux à écouter la librairie francophone. Oui, on va écouter le son du monde de la semaine, Anna Krisch. Le principe, une musique habillée d'une voix. Cette voix, c'est celle de Marlon Brando, qu'on a retrouvée et qui parle de Tahiti et des Tahitiens sur une musique célèbre, la BO des Révoltés du Bounty.
Tahiti, one thing that has been very problematic.
Une chose qui devient très problématique avec le fait d'être un acteur et dans une certaine mesure avec la célébrité, c'est le fait que tu perds ton identité. Tout le monde vous appelle Monsieur Brando au lieu de dire « Hey, toi !» Je suis allé à Tahiti parce qu'ils n'en ont rien à foutre de qui tu es. Les Tahitiens sont formidablement libres de toute classe sociale.
Cette musique tahitienne de l'époque. Anna Krisch, un commentaire sur cette réflexion de Marlon Brando.
Oui, c'est exactement ça. C'est Tahiti, C'est le dernier endroit où il n'est personne. La recherche de toute son existence, se dénuder, justement devenir un homme nu, ben il a trouvé l'endroit où il pouvait l'être.
Alors justement, vous décrivez ces hommes qui végètent dans la rue, qui sont tatoués, parfois drogués, et vous écrivez « On ne trouve rien là-bas que des rapaces rompus au soleil. Croyez-moi, il faut se méfier des hommes nus. » Qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Ça veut dire plusieurs choses. L'homme nu, c'est l'idée générale du primitivisme, c'est le bon sauvage, c'est l'idée de cet homme nu tel qu'on l'a développé en découvrant l'île au XVIIIe siècle. Tout mon propos était de savoir ce qui se cachait derrière cet homme nu. Pourquoi est-ce qu'on a vu ça dans le sauvage tahitien ? Pourquoi est-ce qu'on l'a drapé de cette noblesse-là ? Pourquoi est-ce qu'il diffère des autres sauvages dans l'histoire des découvertes ? Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ?
Alors vous expliquez beaucoup de choses sur la société tahitienne, il y a la drogue qui est omniprésente dans votre livre, c'est assez troublant parce que la drogue est tout le temps là, vos personnages se droguent, les tahitiens se droguent, la fête aussi, alors vous dites d'ailleurs que les tahitiens aiment la fête par-dessus tout, c'est un livre à charge contre Tahiti ou...
C'est pas un livre à charge mais c'est vrai que je voulais parler de cette île qui est mon île et qui est l'endroit où j'ai grandi et donc je voulais la rendre fidèlement et c'est vrai qu'il y a des aspects un peu durs. Qui est donc l'alcool, les violences...
La drogue, donc
la drogue.
Ouais, vraiment, à ce point-là.
À ce point, l'inceste est extrêmement présent. Ouais. Et donc, je voulais aussi raconter ce côté-là de l'île, qui est très présent et qui existe quand on y est.
Rétablir la vérité, d'une certaine façon, alors.
Une vérité, ou en tout cas, rendre du relief à cet endroit qu'on a en tête, mais à travers toujours des représentations bidimensionnelles.
Ah bah oui. Le paradis sur Terre.
Paradis sur Terre.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, c'est un paradis, c'est vrai, mais c'est un paradis un peu plus complexe que ce qu'on imagine.
Trois libraires ont lu votre roman Anna Krisch, la France, la Suisse et la Belgique. On va commencer par la Suisse. Claire Renaud, qu'avez-vous pensé de ce livre ?
Alors, un conseil d'abord à tous ceux qui rêvent de partir à la découverte des lagons paradisiaques de Tahiti, ne lisez peut-être pas ce livre, ou lisez-le avant de prendre votre billet d'avion. Sexe, drogue, alcool et beuverie noircissent les pages de ce roman, un peu longue à mes yeux, de sobre lectrice. Par contre, j'ai beaucoup aimé les dialogues corrosifs entre Cheyenne, la scénariste, et Saul, son agent. Et dans l'ensemble, le rythme du roman est excellent. Voilà en fait une belle évocation de l'envers du paradis.
Bon, ça vous a séduit ?
Oui.
Très bien. Grégoire, pour la France, vous n'êtes pas d'accord, ça ne passe pas chez vous, vous faites encore le libraire terrifiant.
Non, je ne suis pas terrifiant là, mais là pour le coup, effectivement, pour tout dire, on part avec un handicap.
On ne va pas être d'accord.
Brando, c'est quelqu'un que je connais,
que vous détestez.
J'ai lu, et ouais, effectivement.
Alors, pas
le comédien, mais l'homme.
Oui, d'accord, mais quel rapport avec le livre ? Allez-y.
C'est une part importante du livre.
Oui,
et
mais
du coup,
je n'ai
pas envie d'aller plus loin dans l'histoire de Brando déjà à la base. Donc après, je lis le livre, évidemment, parce qu'on m'a demandé de le faire, mais spontanément, je ne vais pas vers Brando.
D'accord.
Après, il y a un autre personnage qui est le personnage de Cheyenne, et là, effectivement, qui a des côtés touchants, mais là, je rejoins Claire sur le côté un peu déglingué de ce personnage avec la drogue, l'alcool, les orgies, etc., qui m'a un peu moins touché. Et c'est vrai que le personnage m'a un peu échappé à ce moment-là. Et c'est vrai que je trouve qu'on parle souvent du roman Carou dans ce livre-là. Et je trouve qu'il y a trop de similitudes. Et c'est vrai que c'est une alchimie si particulière que j'ai pas retrouvé ici.
Mais c'est la mise en miroir. Vous m'arrêtez, Alain,
si compris,
je me trompe. La mise en miroir entre l'instabilité de Marlon Brando et l'instabilité d'une société tahitienne. C'est ça, non ?
Oui, c'est ça.
Bon. Je vous défends. Hein,
c'est gentil.
Annick Dor, pour la Belgique, vous n'êtes pas d'accord avec Grégoire. Annick.
Non, c'est vrai. Moi, je trouvais qu'il y avait surtout un risque à mêler une fiction avec des bribes de scénario de film. Et puis finalement, moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Ce que j'ai trouvé aussi par ailleurs assez intéressant, ce sont les nombreuses références cinématographiques à des films cultes, à des films moins cultes, mais donc tout ça est plutôt intéressant. Et puis on a aussi l'occasion de plonger, on l'a dit, mais dans au cœur de Tahiti, dont on sent vraiment votre profonde connaissance. Je trouve que c'est une évocation de l'intérieur, loin des clichés touristiques et de cette vision finalement naïve de paradis que certains ont peut-être encore. Et puis pour revenir à Marlon Brando, vous le désacralisez joyeusement quand même en dépeignant son côté instable et capricieux. Donc moi, ça m'a plutôt plu en fait, j'avoue.
Voilà.
Je vous remercie.
Voilà, partage. Mais plutôt positif, 2/3, avec ce livre qui a une construction très étonnante. Il y a des fiches techniques, il y a plein de choses comme ça, on est surpris à chaque fois qu'on tourne une page, et c'est ça qui est passionnant aussi dans votre livre. Votre narratrice Cheyenne et sa sœur ont été violées par leur oncle, le viol que vous décrivez presque banal à Tahiti. Il y aurait beaucoup d'histoires de famille avec ses secrets, et puis des tabous aussi, la sexualité est souvent un peu forcée.
L'inceste est très présent. Je ne sais pas vraiment de quoi est-ce le fait, mais c'est dans beaucoup de familles. Et donc, c'était une chose que je voulais aborder absolument dans ce livre. la violence, cette violence-là. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la liberté, il y a ce territoire de grande liberté sexuelle, mais cette liberté sexuelle se paie d'une certaine manière, et notamment par l'inceste.
Ouais. Il y a ça, c'est presque banal, vraiment ?
Oui, c'est très, c'est, les chiffres sont...
Ah bon, c'est effarant, ouais. Oui, vous en donnez quelques-uns. Ouais. Alors l'histoire de Brando, évidemment, s'imbrique totalement dans cette forme de folie et d'instabilité, comme je le disais. Quand il va rencontrer sa femme à Tahiti, c'est un coup de foudre. Et après le tournage, très vite, il devient violent. Il veut un enfant, il n'en veut plus, il la maltraite, il lui interdit aussi les portes du cinéma.
Oui, parce que elle, suite aux révoltés du Bounty, elle aurait pu avoir une carrière qui commençait aux États-Unis puisqu'elle a tourné des scènes à Los Angeles, mais lui a interdit tout simplement et a empêché tous ses contrats de se faire une fois qu'elle était là-bas. Elle est un symbole de cette Polynésie libre et il est hors de question qu'elle se corrompe.
Alors vous écrivez, c'est Marlon Brando qui parle. Le cinéma n'est pas fait pour les Tahitiens. Les Tahitiens sont heureux à Tahiti, loin du cinéma et d'Hollywood. Cette ville épouvantable où rien n'est vrai, où rien n'est beau. Tu dois retourner à Tahiti. Tu dois oublier Hollywood. Le cinéma, c'est bon pour les Américains, ces gens complètement dénaturés qui ont massacré les Indiens d'Amérique.
Oui, bah là on voit tout, parce que c'est un vrai dialogue, c'est une chose qu'il a vraiment dite, et on voit son intérêt pour les peuples opprimés, pour les laisser pour compte, et donc il voit en Tahiti un peu justement tous ces combats mêlés qui prennent forme et qui prennent vie.
Et pourtant Tahiti dévore ses enfants, engloutit les projets. C'est ce qu'on constate quand on lit le roman.
Oui, mais lui a trouvé en fait son décor, décor idéal.
Elle vous a dévoré, c'est-il vous ?
Moi, je suis partie. Donc
vous avez passé votre adolescence quand même.
Oui, j'ai passé mon adolescence et maintenant j'ai un rapport plus apaisé à cet endroit. Mais c'est vrai qu'on nourrit tous des liens un peu parfois horrifiques avec l'endroit où on a grandi et un peu compliqué. Aujourd'hui, j'essaie de la voir pour ce qu'elle est, c'est-à-dire aussi un paradis. Parce qu'il y a vraiment cette coexistence-là là-bas. C'est un paradis et c'est autre chose.
Vous craignez les lecteurs tahitiens qui vont lire votre roman ?
Pour l'instant, les retours ont pas été, sont assez bons.
Ça donc va
oui, oui, personne ne s'est trop fâché pour l'instant.
D'accord. On va terminer avec cette histoire que vous évoquez, qui a défrayé la chronique aux États-Unis. Ce fameux assassinat du compagnon de Cheyenne, la fille de Marlon Brando. On ne connaît toujours pas la vérité, on ne sait pas qui a tué vraiment.
Non, on suppose que c'est le fils de Marlon Brando,
Christian,
le grand frère de Cheyenne. En tout cas, il a été condamné pour ça. Il a passé 10 ans en prison pour ça.
Ouais.
Donc c'est probablement lui. Mais c'est encore une fois la mère, Tarita, la Tahitienne, qui laisse planer le doute parce que personne n'a assisté à ce meurtre. Donc on ne sait pas par où a transité le pistolet. Il y a plein de choses qui demeurent encore obscures.
C'est très glauque dans cette famille parce que le fils Christian, d'ailleurs, il sera vraiment sacrifié. Aucun de ses deux parents, même pas Brando, va lui apporter un environnement stable et protecteur, comme si c'était pas possible, comme si Brando lui-même, étant enfant et n'ayant pas vécu ça, le reproduit avec ses propres enfants.
Oui, le premier fils Christian qu'il a eu avec cette très belle actrice Anna Kashfi a été sacrifié. Il a grandi entre les deux avec une mère un peu instable et folle et qui en voulait beaucoup à Brando. Et donc il a été trimballé comme ça d'un endroit à un autre. Il s'est fait enlever quand il était enfant. Enfin, lui aussi a eu un destin pas drôle du tout. Et puis après, il a passé quand même 10 ans en prison. Et on dit qu'il a survécu grâce à la protection des Hells Angels, les motards, parce qu'ils étaient fous de l'équipée sauvage, le premier film de Brando, et c'est eux qui l'ont protégé. Mais bon, ensuite, il est sorti de prison et il est mort d'une pneumonie.
Ouais, ça,
donc
ouais,
tout est triste, c'est du affreux, début à la fin.
C'est affreux, oui. Absolument affreux. Très bien, merci beaucoup Anna Krish.
Merci
infiniment d'être venue dans la librairie francophone. Il faut se méfier des hommes nus est paru aux éditions Julliard et c'est notre révélation du printemps 2017. Bravo à vous, merci beaucoup Anne.
Merci.
À très bientôt. À suivre, un entretien-reportage à Montréal dans un club de jazz. On vous raconte l'époque de la prohibition avec une grande BD. Ce sera avec Jean-Paul Hyde. Changement d'ambiance tout de suite avec le groupe IAM qui sera en concert aux Francofolies de Montréal ce dimanche pour célébrer les 375 ans de Montréal. Voici le nouveau titre d'IAM dans la librairie.
Ils sont si persuadés qu'on veut les clés de la Porsche. L'égalité dans leur coffre, où sont les clés de la porte, dis-moi. Hein, c'est nous les petits à couleur, que la pop était monochrome. On y amenait la couleur douleur dans nos curriculums. Changer en peace love ou la furiculum. Lorsque le pas du gain défile, bon sens, tout paré, mal barré, ça vire au coup de crosse, car le scooter est mal garé, c'est fou, on évolue dans un terrain limité, avec un plan de société merdique à imiter. Du nord au sud, on sent la dictature du bistrot, nous on se prend des leçons de France, des ébats, des fiscaux, moquez-vous de nous, ouvrez la chasse au caïd, mais mieux voler Air Force qu'un air cocaïne. Moi j'aime mes frangins, mes frangines.
tête sur les épaules, smile aux lèvres avec le baladeur dans le jean. À ceux qui veulent qu'on passe à un autre groove et qui posent des questions tordues pour qu'on tue un autre groupe. Adios, bye bye. En mode laid back on fait, c'est pas pour 100 personnes mais pour des, pour mes beat cloqueurs, mes stylos B, rim croqueurs. Sans bruit de moteur, font baliser Big Brother. Garde le cap même si le chaos tape à la porte. Nous, on reste orthodoxe.
Orthodoxe, orthodoxe. Salve de vinyle, gravé d'un rap orthodoxe.
Orthodoxe, orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe.
Aujourd'hui la vie nous force à choisir un camp, mais cela ne pourra durer qu'un temps. Si les potes veulent marcher au pas et nous attacher au bas, on ne se taira pas longtemps.
Orthodoxe, orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe.
Salve de vinyle, gravé d'un rap orthodoxe.
Putain, après tout ce temps, ils pensent toujours ça de nous. Rien que de vulgaires, misogynes et voyous. Parfait exemple que l'échange reste un atout. Comme une phrase ou un move qu'on se réserve au cas où. Le son cool et leur discours a le même goût. Sort du même moule, toujours aussi flou. Et nous toujours aussi fous, on continue à chanter. Parce que la connerie, elle ne cesse d'avancer. Du coup ils veulent notre sourire et notre sœur sous écrou. Ça vole tout ce que ça touche et ça nous cherche des poux. À genoux, la confiance a enlevé ses dessous seulement. Désolé, on préfère danser debout. Ils pensent garder des moutons et on déboule comme des loups. Quand ils nous veulent au garde à vous, on pète le verrou et on passe le monde à la loupe. C'est pour nos gens en pleine couleur qu'ils voudraient engommer. On garde à l'abri ces valeurs qu'ils voudraient embaumer. Balancer dans un trou, faire taire nos tambours. Que l'harmonie reste sourde à nos chants d'amour. Craignant qu'un jour la chance ne fasse demi-tour. Ou que nos phrases finissent par les arder leur tour. Ils prennent le globe pour leurs égouts, foutent la merde partout. Un, on s'écrit pour, ça s'écrit comme voyou. On rate droit même quand le chaos frappe à la porte. Nous, on reste orthodoxe.
Orthodoxe, orthodoxe.
Salve de vinyle, gravé d'un rap orthodoxe.
Orthodoxe, orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe.
Aujourd'hui la vie nous force à choisir un camp, mais cela ne pourra durer qu'un temps.
On aime le son, les saps, les soirées,
les rimes qui ont du sens,
les flots
d'enfoirés,
les fachos, les aciers sur des vélos sans sel.
Nique les skins et leurs vestes, long steak.
Le mélange,
l'échange,
le partage,
tour du monde,
la paix
dans le pactage.
Les haineux, on les embarque dans des charters sans sel.
Nique les skins et leurs vestes, long steak.
Le groupe IAM avec Orthodoxe sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires qui vous présentent leur coup de gueule et leur coup de cœur. Et on commence avec la Belgique et un coup de gueule à Nick Dore.
Oui, contre une mode qui est en passe de devenir un petit peu lassante, c'est le phénomène de ces titres kilométriques dont les maisons d'édition raffolent depuis quelques années, comme si c'était finalement le gage de la réussite d'un roman. Mmh. Alors, rappelez-vous,
par
on
exemple,
a eu
hein,
par exemple l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea,
ouais.
Ou encore les gentilles filles vont au paradis, ouais. Les autres là où elles veulent. Voilà, alors le problème c'est que les meilleures sont les plus courtes, évidemment, c'est devenu un peu une épidémie, avec la grande championne toute catégorie en la personne de Raphaël Giordano, qui les accumule. Hein. Alors elle avait écrit « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Alors elle a remis le couvert plus récemment avec « Le jour où les lions mangeront de la salade verte ». Voilà, donc certains de ces titres, en plus d'être longs et inretenables, sont aussi extrêmement mièvres. J'en ai quand même relevé deux, des pépites.
«
Marche
bien.
Où la vie t'ensoleille et le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie ».
Et il faut se méfier des hommes nus aussi, d'Anna
Krish. Oui, j'ai pensé un peu casse-pipe, j'avoue, de ma part. J'avoue.
Elle rigole, Anne. Non, mais c'est un joli titre en tout cas, hein, mystérieux.
Un peu,
et tout.
Un peu long, c'est vrai.
Un petit peu long, c'est vrai. Bon, merci Annick pour ce coup de gueule. Jérémy Laniel pour le Canada, un coup de cœur cette semaine.
Oui, coup de cœur en essai, La traversée du Colbert d'André Duchesne, publié au Boréal. Vive le Québec libre. Emmanuel, déjà 50 ans que le général de Gaulle a prononcé ces paroles au balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal. Et pourtant, elles résonnent encore beaucoup trop dans l'écho d'un rêve indépendantiste qui revêt plus souvent qu'autrement des habits nostalgiques. Ben, le journaliste André Duchesne dépeint ici vraiment à la façon d'un thriller, un essai journalistique fouillé, passionnant sur le passage du général de Gaulle. André Duchesne ne laisse rien au hasard pour vraiment tenter de cerner ces fameux quatre mots. Est-ce qu'ils étaient voulus, prémédités ou c'était le hasard des choses. C'est un essai passionnant, vraiment au cœur de l'histoire québécoise.
Et le livre d'André Duchesne est paru aux éditions Boréal. Merci Jérémy. On part tout de suite à Montréal, justement avec un autre libraire québécois, dans un club de jazz pour un roman graphique flamboyant, Un son du monde, grand format.
La librairie francophone, Emmanuel Quérade.
Bonjour Jean-Paul Hyde.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez publié avec Claude Paiement une grande bande dessinée, grande par la taille, mais aussi par la qualité, La femme aux cartes postales. On la lit comme un vrai roman de 230 pages. On suit dans les années 50 une jeune femme qui quitte son village du Québec pour aller dans la grande ville de Montréal. Elle veut chanter dans un club de jazz. Et à l'époque, même avant, lors de la prohibition aux États-Unis voisins, Montréal est une ville tolérante, c'est une ville très accueillante.
Oui, en fait, Montréal, c'était un peu l'œil du cyclone, l'endroit où il n'y a pas eu de prohibition, ce qui fait qu'il y a toute une communauté du spectacle qui s'est dirigée vers Montréal à cette époque-là. Et Montréal étant à quelques heures de train de New York, il y a des tas de musiciens, de gens de spectacle qui sont arrivés, dont une communauté noire qui est venue s'établir à l'ombre de la gare centrale et qui ont établi, en fait, le cœur névralgique de ce qu'on a appelé la petite Havane, en fait, du Nord, Montréal, qui est devenue la plaque tournante, en fait, du jazz de cette époque-là.
Alors, en ce moment, on est dans un club de jazz à Jean-Paul Hyde, vers le plateau Mont-Royal, rue Saint-Denis. Alors, c'est typique, hein, il y a un piano noir, évidemment, une petite scène, là, drapée d'un tapis rouge, un long comptoir, un bar qui fait l'angle, c'est bas de plafond avec des poutres. On est vraiment dans l'ambiance, un peu dans l'ambiance de l'époque. On imagine, en tout cas, qu'on aurait pu voir vos personnages évoluer ici.
Oui, tout à fait. C'est sûr que les clubs originels qui étaient à l'époque sur la rue Sainte-Catherine, beaucoup, tout le centre-ville, ces clubs-là ont disparu. D'ailleurs, c'est une histoire un peu triste. Quelques-uns de ces clubs-là, parce qu'il faut dire qu'il y avait les clubs de jazz, mais il y avait aussi les cabarets. Les cabarets qui présentaient des numéros de variété, qui étaient plus de tradition, je dirais, francophone. Et c'est ce qui a fait, en fait, la renommée du Montréal de cette époque-là, où on pouvait regarder Sainte-Catherine et le boulevard Saint-Laurent, qu'on appelait la Main pour Main Street, qui était donc illuminé de marquises et de néons. Et hélas, tous ces cabarets-là ont à peu près disparu. Quelques-uns sont restés, mais c'est un peu l'histoire que je raconte. C'est cette fin de règne du spectacle pour trois raisons. L'arrivée de la télévision qui fait que les gens n'ont plus besoin de sortir pour aller au spectacle. C'est l'arrivée du rock'n'roll. Il y a toute une nouvelle génération qui n'en a plus que pour un certain Elvis. Et c'est l'arrivée du maire Drapeau qui, lui, va mener une guerre contre la mafia qui a la mainmise sur tous ces clubs-là du centre-ville.
Alors, c'est très compliqué, hein, politiquement, vous le décrivez, parce que effectivement, il y a le premier ministre Duplessis qui voyait d'un très bon œil que Montréal se partage avec la Havane les voyages plaisir des Américains. Sauf que le maire, lui, à l'époque, Jean Drapeau, va mener un combat, un programme de moralité publique. Et il va d'ailleurs perdre les élections en 1957.
Exactement. En fait, le maire Drapeau, qui est un jeune juriste à l'époque, qui est mené par une campagne populaire, il arrive à la mairie et en fait, il est trop efficace. Il veut bouger et ça bouge trop vite et il se fait énormément d'ennemis et c'est comme ça qu'il perd en fait les élections suivantes en 57, mais pour revenir, et c'est en fait dans l'histoire, c'est le maire Drapeau qui va, je dirais, construire le Montréal qu'on va appeler le Montréal moderne, le Montréal de l'Expo 67, le Montréal qui va s'ouvrir au reste du monde et qui va sortir un petit peu Montréal, mais parallèlement il y a d'autres politiciens du Québec qui vont faire la même chose, qui va nous amener dans ce qu'on va appeler la Révolution tranquille.
Lullaby of Berlin, whisper low, kiss me sweet, and we'll go flying high in Berlin, high in the sky up above. We're in love.
Alors, dièse 11 où nous sommes en ce moment avec un concert qui est en train de se préparer, du monde qui commence à arriver. On est au cœur de Montréal, dans un triangle d'or pour la culture, en tout cas pour les clubs de jazz, les restaurants, les bars. Et il y a un libraire qui nous a rejoint, Jean-Paul Hyde, c'est Billy Robinson. Bonjour Billy.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie de Verdun à Montréal. Vous avez lu évidemment La femme aux cartes postales. Que voulez-vous dire à cet auteur qui est juste à côté de vous?
En fait, je devais dire que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié la lecture de ce beau roman graphique-là. Autant au niveau du dessin, du graphisme, mais surtout à cause de l'histoire. Une histoire passionnante. C'est rempli d'informations qui sont hyper importantes. Et moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et je crois que ce genre de roman-là, d'histoire, est vraiment important. Et je remercie d'avoir publié un livre comme ça.
Voilà, lisez La femme aux cartes postales. Parlez-nous du Red Light, qui, dit-on, accueillait tous les vices à Montréal à l'époque. On est dans une partie de l'ancien Red Light ici.
C'est un coin, évidemment, qui était en pleine effervescence. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Montréal, il y a la rue Sainte-Catherine, qui est une des plus grandes artères commerciales et qui est traversée perpendiculairement par la Maine, le boulevard Saint-Laurent, qui est la colonne vertébrale de Montréal, qui est la ligne qui sépare originellement la communauté francophone de la communauté anglophone. Et, paradoxalement, c'est autour de ce boulevard-là que sont montés tous les immigrants qui débarquaient du Vieux-Port. Ils montent et toutes les communautés se sont installées le long de ce boulevard-là. Donc, c'est vraiment une géométrie très particulière à Montréal.
Et dans ces quartiers, la discrimination envers les Noirs était moins dure qu'ailleurs en Amérique. Alors, les Noirs se mélangeaient d'ailleurs très facilement, on le voit dans votre BD aussi, avec les Blancs. Sur scène, ils jouaient ensemble. Et ça, c'est unique à l'époque. Il n'y a qu'à Montréal qu'on voit ça.
Encore là, il faut faire exception parce que j'ai raconté une histoire qui se passe au Rockheads Paradise, qui est probablement un des clubs les plus mythiques de Montréal, qui avait la renommée d'un Cotton Club de New York ici. Duke Ellington venait prendre une bière au comptoir pour repêcher les musiciens qui y jouaient. C'était un club qui était reconnu pour ne faire jouer que des Noirs sur scène. Nous autres, on a tordu un peu la réalité pour permettre à un de nos personnages fictifs d'y jouer.
Vous avez fait l'inverse, en fait.
Exactement.
Hein? Dans les clubs à Montréal, on accueille les Noirs, et là, c'est un Blanc qui est accueilli dans un groupe de Noirs.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelait Uptown, c'est-à-dire les rues Sherbrooke, là, il y avait des clubs où on n'acceptait pas les Noirs du tout, que ce soit sur scène ou à l'intérieur. D'ailleurs, il y a une célèbre histoire qui raconte qu'au Ritz-Carlton, qui est un des plus chics hôtels de l'époque, on a refusé un orchestre de jouer en apprenant à la dernière minute que son pianiste était noir et le directeur de la formation a insisté pour dire non, vous nous prenez au complet, pianiste compris, sinon on ne joue pas. Et c'est la première fois qu'un pianiste noir a joué au Ritz-Carlton et ce pianiste s'appelait Oscar Peterson.
Dans cette bande dessinée, Jean-Paul Hyde, vous décrivez, vous montrez en dessin le Montréal de l'époque. Le Lion d'or, où de célèbres musiciens se produisaient, qui existe encore, mais qui a complètement changé. Le célèbre Benz, et c'est son smoked meat, qu'on trouve aujourd'hui dans d'autres restaurants, car il a fermé Benz hein, il y a 10 ans. Tous ces lieux font partie de l'histoire du Québec, et même plus largement de l'histoire du Canada.
Oui, en fait, c'est des monuments souvent un peu disparus, mais qui ont fait partie de l'histoire urbaine de Montréal. Une histoire, évidemment, qui est aussi encore là cosmopolite, très avec des les smoked meats, c'est toute une cuisine juive d'Europe de l'Est. En effet, le Lion d'Or est un des derniers clubs qui reste. Et étonnamment, ces clubs-là, évidemment, les adresses existent toujours. Et aujourd'hui, ce que c'est devenu, pour la plupart, c'est devenu ce qu'on appelle des bars de danseuses. Danseuse nue. Pourquoi? Parce que quand est arrivé la télévision, de tous les numéros de variété qui étaient présentés dans les cabarets, le dernier numéro qui ne pourrait pas être montré à la télévision, c'était les numéros des feuilleuses. Et c'est pour ça que donc tous ces clubs-là sont devenus les clubs des feuilleuses qui sont encore là aujourd'hui dans le Red Light.
Merci beaucoup. On va se quitter sur la musique qui a été inspirée par cette bande dessinée, la pièce Two Little Birds, que l'on peut d'ailleurs aussi retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne. Merci beaucoup, Jean-Paul Hyde.
Merci.
Merci. La femme aux cartes postales est parue aux éditions La Pastèque, livre distribué à travers toute la francophonie. Billy Robinson, à très bientôt. C'est pas très loin, la librairie de Verdun, ici.
Non, tout à fait, c'est très très près.
Merci, Billy. À bientôt.
Au revoir.
They say that two is company. And they say that three is a crowd. But I would rather be crowded. So baby, please stand close.
Et on quitte Montréal et on part dans cette plus grande librairie du monde à nouveau. Direction la Suisse avec Claire Renaud. Coup de cœur ou coup de gueule, Claire?
Un coup de gueule, Emmanuel.
Allez-y.
Contre le dictionnaire amoureux de la Suisse de Metin Arditi.
Ouais.
Je sais que le principe des dictionnaires amoureux repose sur les goûts et la subjectivité de l'auteur. Mais moi, je regrette, par exemple, qu'il n'y ait aucun humoriste. Est-ce qu'on est si peu drôle, nous, Suisses? Il n'y a pas Zouk, Bernard Haller ou Frédéric Retrozio. Quant à Albert Cohen, il vivait, vous le savez, à Genève. Il aimait dire que sa plus belle œuvre avait été la création d'un passeport pour réfugiés en 1946, quand il travaillait pour le HCR. Le HCR est à Genève, hein. Mais pas un mot là-dessus, et rien non plus sur les pages magnifiques qu'il a consacrées à Genève dans Belle du Seigneur.
Mmh.
Rabat-joie, je suis sans doute rabat-joie. Mais aucune mention de nos crayons Carandache.
Oui, bah vous n'allez pas faire l'inventaire.
Ni une pleine page sur notre cervin. Un dictionnaire amoureux doit être écrit avec le cœur,
oui.
Et le mien n'a pas vibré.
Oui, mais c'est subjectif. Forcément, c'est le principe de l'exercice du dictionnaire amoureux, c'est que l'auteur choisit les éléments qui le passionnent, en tout cas qui représentent la Suisse. C'est ça le principe.
Oui, mais moi,
ça passe pas. D'accord.
Je suis pas amoureuse de ce dictionnaire. Voilà.
Bon, dictionnaire amoureux de la Suisse de Metin Arditi aux éditions Plon, un livre qui marche plutôt bien d'ailleurs, paraît-il, en Suisse.
Oui,
merci beaucoup.
Bien.
Merci Claire. Direction la France, Grégoire Courtois. Un coup de gueule aussi?
Ah oui.
Allez, allons-y.
Oui, non, parce que là, j'ai dans mes rayons, vous savez que j'adore le développement personnel et
oui,
tout
c'est
ce genre de rayon. Mmh. Hein, c'est un peu mon rayon préféré. Mmh. Donc là, j'ai trouvé quand même le truc qui décroche le pompon, qui vient de sortir, qui s'appelle La vie dont vous êtes le héros. Alors bon, je me suis dit super, je vais regarder. J'aimais bien quand j'étais petit les
livres.
Livres,
vous êtes le héros. Bah, ça existe encore ou pas?
Bien sûr, absolument.
Je posais la question.
Ils les ont
génial.
Ils les ont réédités, ouais, tout à fait.
Ah, vous, ouais,
les
vous...
originaux.
Oui, j'aimerais en écrire un.
C'est vrai. On va en écrire un tous les trois. Allez-y, on est très
en retard. Là, c'est la même chose appliquée au développement personnel. Donc vous ouvrez le truc. Alors déjà, moi, il fallait se connecter à son âme d'enfant et tout ça, enfin, tous les trucs que j'aime bien faire. Alors, je m'aperçois que je m'appelle Marion, que je suis une femme moderne, douce, conciliante et sensible. Alors, j'étais content. Et puis, tout à coup, il y a une chouette qui apparaît et qui me demande un choix. Il dit, alors voilà, tu as trouvé un livre. Est-ce que tu décides de l'ouvrir ou de le refermer? Alors, moi, je le referme et j'arrive à la fin et on me dit, bah non, voilà, c'est fini. Et
d'accord.
Du coup, bah voilà, enfin, j'ai trouvé que c'était un peu exagéré quand même. 13,50€ pour 10 pages, je trouvais que c'est un peu abusé. Voilà.
Bon, c'est un peu raté, c'est ça?
Non, mais c'est surtout que c'est un peu mièvre aussi.
C'est un peu mièvre. La vie dont vous êtes le héros de Stéphanie Assante aux éditions Mango.
Voilà.
On vous envoie ses courriels. Merci
ouais.
Grégoire. La librairie francophone avec Anna Chris, Jean-Paul Hyde et Eric Orsena pour un livre incroyable sur les moustiques. On va partir dans le monde entier avec vous analyser la situation géopolitique du moustique. Mais on reste pour l'instant dans le monde du jazz après ce reportage à Montréal avec le tube francophone de la semaine et ce tube jazz interprété par Mélodie Gardot et Baptiste Trottignon.
Dis-moi à quoi ça sert de me souvenir de toi, de ta peau, de ta chair qui ont volé en éclats. Dis-moi à quoi ça sert d'être encore avec toi, ta photo sur l'étagère qui me parle tout bas. Mon nom, mon beau fantôme, que puis-je encore faire pour toi? Mon nom, mon beau fantôme, s'il te plaît, réponds-moi. Mon nom, mon beau fantôme, que puis-je encore faire pour toi? Mon nom, mon beau fantôme, s'il te plaît, réponds-moi. Réponds-moi. Ça sert de te prendre dans mes bras comme un courant d'air qui vous glisse entre les doigts. Dis-moi à quoi ça sert de pleurer encore pour toi. C'est comme si c'était d'hier, tes yeux me désirant tout bas. Dis-moi à quoi ça sert de te vouloir encore comme ça. Tu t'es envoyé en l'air en me laissant derrière toi. Oh mon âme, mon beau fantôme, que puis-je encore faire pour toi? Mon âme, mon beau fantôme, s'il te plaît.
fantôme, s'il te plaît, réponds-moi.
Mélodie Gardot et Baptiste Trottignon, Mon Fantôme, sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS, et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Quérade.
Éric Orsena est dans la librairie francophone cette semaine pour son livre Géopolitique du moustique, réalisé avec le docteur Isabelle de Saint-Aubin et paru aux éditions Fayard. Alors le moustique est petit et c'est souvent l'infiniment petit qui est le plus dangereux pour l'homme. Les bactéries, les particules dans l'air et donc un peu plus gros quand même le moustique. L'avenir appartient au petit, Éric Orsena ?
Bien, écoutez, quand on se rend compte de la durée de vie du moustique, puisque le moustique existe depuis 250 millions d'années. Donc on a vu que maintenant les êtres humains, humanoïdes, existent depuis 7 millions d'années, donc ils existent depuis si longtemps. Pourquoi ça marche quand on est petit ? Ça marche parce qu'on dépense beaucoup moins d'énergie, on peut habiter n'importe où, et surtout la capacité du moustique, c'est de s'adapter à tout. Pourquoi il s'adapte à tout ? C'est que nous, en un siècle, nous avons 4 générations, puisque c'est 25 ans, et on voit à quel point nos enfants sont différents de nous. Ils sont un peu plus grands, mais beaucoup moins intelligents. Et donc c'est un peu ce qui se passe. Alors que les moustiques, il y en a 7 à 8 par année. Ce qui fait qu'en un siècle, il y a 800 mutations. Et on s'étonne après que quand on leur balance des insecticides genre DDT, ils s'adaptent, ils résistent et il faut trouver autre chose.
Alors vous élargissez d'ailleurs votre analyse aux insectes. On a répertorié plus de 3 millions d'espèces d'insectes dans le monde et chaque année, nous en découvrons plus de 10 000. Et ils se reproduisent à une vitesse considérable. C'est aussi le cas du moustique qui a une vie sexuelle très épanoui et plutôt frénétique.
Mais ça dure très peu de temps, pour être franc. Donc, il remplace par la frénésie et la faible durée une extension qui, j'espère, étant donné mon âge, peut durer assez longtemps. Mais ce qui est aussi fascinant dans cette petite bête dont j'ignorais tout, pour être franc, il y a 3 ans, c'est qu'elle a une première partie de la vie qui est aquatique. C'est pour ça que si on veut lutter contre les moustiques, la meilleure façon, c'est de détruire ce qu'on appelle les gîtes larvaires, c'est-à-dire les flaques d'eau, c'est-à-dire les coupelles où on peut mettre des fleurs, c'est-à-dire les canettes de bière, etc. Et puis, au bout d'une dizaine de jours, et parfois un peu moins, hop, il devient nymphe et puis il devient vraiment moustique. Donc, il a une partie aquatique durant laquelle il nourrit tous ceux qui habitent dans l'eau. Et il sert d'ailleurs à purifier l'eau.
Il filtre 2 litres d'eau par jour.
Il filtre 2 litres d'eau par jour et il nourrit tous les batraciens, les grenouilles, tout ce qu'on peut imaginer de ça. Et puis à un moment donné, bon, il prend l'air et à ce moment-là, il va nourrir les oiseaux et il va pollinisser. C'est-à-dire les moustiques, c'est pas agréable d'avoir des moustiques tout au cours de la nuit et de se faire piquer par eux. Mais enfin, ils ont un vrai rôle utile.
Et vous nous démontrez le génie d'adaptation des insectes et des moustiques en particulier. Il sera impossible de les éradiquer, c'est ce qu'on vous explique, les scientifiques que vous avez interrogés. Et vous expliquez, vous, à travers ces témoignages, que ce n'est de toute façon pas souhaitable. Il n'est pas question de les éradiquer. Ce serait trop dangereux pour l'homme.
Alors vous savez, c'est toujours le rêve de l'être humain de maîtriser. De maîtriser sa vie, de maîtriser la nature, comme si les êtres humains avait le monopole de la vie. Ben, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce que, admettez que vous tuez les moustiques, ils ont une fonction. Qui remplace cette fonction ? Et puis, si vous supprimez les moustiques qui accueillent les parasites ou les virus, les parasites et les virus vont trouver d'autres porteurs. Il y aura des interactions. Donc, on va créer des monstres. Et en plus, en général, quand on veut éradiquer, c'est par manipulation génétique. Et si on développe par manipulation génétique, on sait bien que la génétique, parfois, il y a des ratés. On le voit bien dans l'espèce humaine, hélas. Et surtout, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, vous voyez, après avoir fait une grande enquête, c'est pas mon opinion, c'est l'opinion de la majorité des scientifiques, les contrôler, oui, éradiquer, non.
Le moustique tue quand même 750 000 hommes par an. Les humains tuent, eux, 475 000 de leurs semblables.
Il y a en moyenne, il y a des fois où ils sont plus actifs.
Voilà, en fonction des guerres, en fonction des crimes, hein, tout est répertorié évidemment. Et ça, chaque année. Hein. Les chiens tuent, eux, quand même 25 000 hommes par an. Les serpents, 50 000
à cause de la rage.
Et les requins, 10. Le plus grand tueur de l'humanité, c'est donc le moustique.
C'est le moustique, en tout cas, c'est le complice des plus grands tueurs. Parce que c'est pas lui qui tue, c'est encore une fois soit le parasite, soit le virus qu'il porte. Et alors il y a un parcours à l'intérieur du moustique qui est intéressant parce que quand le moustique vous prend du sang, et pourquoi il vous prend du sang, c'est d'abord, il faut savoir que c'est seulement la femelle du moustique qui prend du sang. Pourquoi elle prend du sang? Pas parce que c'est une méchante fille, pas du tout, c'est qu'elle a besoin de ce sang, parce que dans le sang il y a des protéines, et sans cette protéine, elle ne pourrait pas développer ses œufs. Et donc c'est une mère, c'est la mère qui vous pique. Donc en piquant, elle dépose dans votre sang, dans votre peau, de la salive. Pourquoi la salive? Parce que dans la salive, il y a un anticoagulant. Mais il n'y a pas seulement un anticoagulant, il y a justement les parasites et les virus. C'est pour ça qu'il y a deux trombes dans la femelle moustique, un pour pomper et l'autre pour injecter cette salive dans laquelle il y a l'anticoagulant et en même temps les parasites.
Alors vous dites d'ailleurs, ce n'est pas la femme qui pique, c'est la mère. Vous en faites un peu beaucoup, hein, Eric Orsona, parce que vous dites même que le son qu'elle émet, c'est un appel à l'amour.
Je suis factuel, c'est-à-dire dans la nuit, quand vous avez des bzzz, c'est-à-dire c'est la femme là qui appelle à l'amour et que le mâle, d'abord il fait pas de bruit, ensuite il vit très peu de temps, il remplit sa fonction de reproduction et puis il a le bon goût de disparaître. Donc c'est pas lui qui crie à la lune pour essayer d'attendrir sa petite Juliette.
Bon, trois libraires ont lu votre livre, Eric Orsona. Canada, Suisse ou Belgique, on commence par qui?
Eh bien, allons au plus loin, Canada.
Canada, Jérémy Laniel.
Ben, je dois m'avouer conquis par ces précis de mondialisation. Il y a là un savant mélange, aussi galvaudé puisse-t-il être, d'érudition et de littérature. Vous nous accrochez au récit un peu à la manière d'un Bill Bryson français. Ce moustique de par le monde, on apprend à le connaître, à l'haïr, à l'aimer. Bref, vous parvenez à ce qu'on l'amadoue.
Bien, merci Jérémy. On va partir en Suisse. Ça vous va la Suisse, Eric?
La Suisse me va très très bien. J'ai écrit un roman qui s'appelle La vie comme à Lausanne. Et à l'époque, j'avais jamais été à Lausanne et les gens me disaient, c'est incroyable parce qu'ils connaissent bien Lausanne.
Bon, elle est pas très loin de Lausanne. C'est Claire Renaud. C'est à vous, Claire.
Oui. Comme à son habitude, Eric Orsona nous emmène dans un drôle de voyage où l'on va découvrir le moustique dans tous ses états. Dans ce livre, on découvre surtout le combat de dizaines de chercheurs autour de la planète pour étudier et renverser l'ordre de la nature. Au final, l'auteur nous rappelle que dans notre univers mondialisé, il n'y a pas souvent de miracle, surtout quand la prévention, la seule bonne stratégie anti-moustique, n'enrichit pas les grands groupes pharmaceutiques.
La Belgique, c'est Annick Dor. Annick Dor, êtes-vous d'accord avec vos collègues?
Complètement. Moi, j'ai été captivée, alors qu'a priori, c'est vrai que je ne suis pas spécialement intéressée par les insectes et encore moins par les moustiques, et que je ne suis pas fort au fait de la différence entre virus, microbes et autres joyeusetés de ce genre. Mais vous parvenez, c'est vrai, à rendre ce monde absolument passionnant grâce à un réel don de vulgarisation. Vous faites preuve d'une grande humilité aussi dans la façon d'aborder votre sujet. Et donc, c'est vrai que sous votre plume, eh bien, on cerne avec beaucoup de facilité les enjeux sanitaires, mais aussi éthiques de toute cette question.
Voilà, vous avez séduit nos libraires, Eric.
Ben, écoutez, j'ai été, moi, absolument passionné par ce sujet. Vous savez, je suis vraiment un reporter. Quand j'étais petit, moi, je voulais être Tintin. Et donc, maintenant, j'ai la possibilité d'être Tintin, puisque les livres, les lecteurs ont la gentillesse de lire les livres. Donc, ce sont les éditeurs qui financent mes voyages. Et donc, je découvre à chaque fois des univers. Et j'ai une gourmandise dont tous mes proches disaient, on espérait qu'elle se calmerait avec l'âge, c'est l'inverse.
Bon, en tout cas, c'est inquiétant, hein, tout ce que vous racontez, parce que c'est à la fois passionnant, les libraires l'ont dit, c'est très érudit, c'est très, très documenté avec ses reportages. On voyage à travers le monde, c'est un grand son du monde, on aime bien les sons du monde dans cette émission, c'est exactement ça, c'est ce qu'on ressent. Mais en même temps, on se demande ce qu'on peut dire quand même aux auditeurs de la librairie francophone qui nous écoutent beaucoup dans les Outre-mer et dans les pays d'Afrique qui sont envahis par ces insectes et touchés de plein fouet par ces maladies. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous?
Je leur donne un chiffre, par exemple, on a divisé par deux le nombre des malades du paludisme en utilisant systématiquement des moustiquaires imprégnés de répulsifs. Donc on peut faire ça et on peut très bien supprimer les moustiques à la source, c'est-à-dire dans leur phase aquatique. C'est-à-dire si on fait attention dans son jardin de ne pas avoir de piscine mal entretenue, de jouets dans lesquels il y a un petit reste d'eau, eh bien, il n'y aura plus d'endroit où les dames moustiques pourront placer leurs œufs, et à ce moment-là, il n'y aura pas de moustiques. Donc on peut nettement diviser.
Peut-on imaginer, faut-il s'attendre à ça, que des maladies comme Zika et le chikungunya puissent toucher le sud de la France, déjà envahie par le moustique tigre, ou les bords du lac Léman, qui a aussi une contamination au moustique tigre, ou encore les campagnes du Québec, qui ont ce moustique?
Alors, évidemment, on peut envisager ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la moindre nouvelle d'une contamination. pour le soigner immédiatement le plus possible, premièrement. Et deuxièmement, il faut connaître les habitudes de ces animaux. C'est pour ça que ce livre est fait pour saluer les chercheurs, qu'on appelle les entomologistes médicaux. Et alors que, comme on fait trop confiance aux médicaments, comme d'habitude, on a toujours, l'être humain, l'idée qu'on va trouver un jour un type de médicament qui sera valable pour tout le monde, partout et tout le temps. On voit ce qui se passe avec les antibiotiques, c'est-à-dire la vie répond à la vie. C'est ça ce que j'ai appris. Moi, vous savez, je suis un économiste, c'est-à-dire quelqu'un qui a une formation assez nulle, pour être franc. C'est-à-dire assez limité. Mais c'est la première fois que je plonge dans les mécanismes de la vie et je dis, nous n'avons pas le monopole de la vie. C'est pour ça que notre planète n'est pas une planète entre les dominateurs et les esclaves. Notre planète est une planète d'associés.
Alors c'est très étonnant parce que ces maladies, elles apparaissent, elles disparaissent. Et ça, vous l'expliquez très bien. Zika, ce n'est pas nouveau. Cette maladie est apparue bien avant, des années avant. Et puis en 2013, elle réapparaît à Tahiti, à Moorea et aux Marquises. Et tout le monde sur place est plus ou moins touché. Sauf que personne s'en est inquiété parce qu'il n'y avait pas de conséquences a priori.
Non, parce qu'il y a des formes de maladies qui changent beaucoup, comme la dengue, il y en a 4. Comme de toutes sortes de chikungunya, il y en a différentes. C'est-à-dire que, encore une fois, la vie, ça s'adapte sans arrêt. Les virus s'adaptent. Il y en a qui sont parfois un peu plus virulents, il y en a d'autres qui sont moins virulents. Et puis ça change tout le temps. C'est pour ça que c'est si difficile de trouver des vaccins, notamment pour le paludisme, c'est qu'il y a des formes très très diverses. Et donc c'est la nécessité de jamais couper les crédits de la recherche.
Bien, terminons avec les peaux à moustiques. Buvez-vous de la bière, Eric Orsena ?
Alors, de moins en moins quand je suis dans les régions tropicales, puisque les moustiques aiment la bière. Alors,
voilà, ouais.
les peaux à moustiques. Alors, on pose toujours la question de la peau à moustique. Alors, il se trouve que le moustique, il est attiré principalement par le CO2 que nous émettons. C'est-à-dire quand vous et moi sommes enceintes, il y a une sorte d'accélération du métabolisme.
Ça.
Et donc, on produit plus de CO2. Quand on est malade, quand on a la fièvre, il y a un peu plus de CO2.
Et quand on a bu aussi.
Donc, quand on a bu un peu, il y a un peu plus de CO2. Et puis, il y a des odeurs. Alors, des odeurs, ça dépend des espèces en même temps. Comme disent les scientifiques, on leur pose une question, ils disent ça dépend. Donc, c'est énervant, mais c'est un peu comme ça. Et donc, la meilleure solution, c'est vraiment la moustiquaire imprégnée. Imprégnée de répulsif. Parce que si vous n'avez pas imprégné la moustiquaire, le moustique, il attend tranquillement que vous sortiez pour aller pisser. Et on revient à cette situation. Plus vous avez bu, plus vous sortez et plus vous êtes piqué.
Et voilà, les dangers de l'alcool, aussi avec les moustiques.
Et je ne vous dis pas qu'en plus, vous avez un problème de prostate.
Ça, c'est un autre sujet. Il faudrait peut-être un livre là-dessus, on verra.
Sur la prostate, j'aurais, si je puis dire, un marché captif chez les hommes de plus de 50 ans.
C'est ça. Merci beaucoup, Eric Orsena. On termine là-dessus, c'est étonnant. Bah, mais c'est ça la librairie francophone.
La prostate, c'est ça,
oui.
La mondialisation.
Mais c'est l'émission sujet, est libre.
Aucun sujet ne nous est étranger, car la francophonie, c'est la vie, il faut le savoir.
Exactement.
Et
on porte ça depuis 10 ans.
La librairie, c'est ce qui permet d'accroître la vie.
Exactement. On est raccord, tout va bien. Géopolitique du moustique est paru aux éditions Fayard. Lisez ce livre, c'est l'un des plus passionnants que nous avons lu cette année, vraiment. Et en plus, il vous fera voyager à travers le monde. Merci beaucoup, Eric.
C'est moi.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Et avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone, voici le chanteur Malik Djoudi. Malik Djoudi avec Sous Garantie, que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci Anna Krish.
Merci
à très bientôt. Merci Eric Orsena. La réalisation Hélène Bizio avec Pierre Monteil, Djoubaka à la prog musicale. À la rédaction Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, un grand florilège pour finir la saison, à ne pas manquer, des moments d'émotion, d'humour et les conseils de nos libraires pour vos livres de l'été à lire sur la plage ou ailleurs. Très bonne semaine et bon week-end. À bientôt, salut.